Un grand merci pour cet accueil, grand merci aux organisateurs, à la Faculté de théologie de l'Université de Fribourg et à la section romande de la Société Suisse-Chine. Ravi et honoré de me trouver à l'Université de Fribourg, l'un des professeurs les plus respectés de la Faculté de philosophie où j'enseigne a reçu sa thèse à l'Université de Fribourg. Voilà. Et il y a sans doute plus de liens déjà que vous ne le pensez, il y a 3 semaines à Shanghai, dans le cadre d'une université d'automne, transuniversité, j'ai fait la connaissance de 2 professeurs de la section d'histoire de l'Université de Fribourg. Donc les liens sont déjà actifs. Voilà. De quoi parlons-nous ce soir? Le thème a l'air peut-être un peu confus, un peu large, alors j'aimerais le préciser un petit peu. J'aimerais explorer avec vous 2 questions. La première, c'est de se demander qu'est-ce qui caractérise le paysage religieux chinois aujourd'hui? Disons 2 séries de questions. Qu'est-ce qui caractérise le paysage religieux chinois aujourd'hui? Quel type d'efflorescence, quelle variété, comment le caractériser, si vous voulez? Comment le décrire d'une façon qui fasse honneur à sa vitalité? Et puis la 2e question, qui est peut-être encore plus importante, est de se demander qu'est-ce que l'évolution de ce paysage religieux nous dit sur la Chine tout entière. Donc il ne s'agit pas simplement de se focaliser sur des groupes indépendamment de la société dans laquelle ils évoluent, mais de se demander ce que le fait religieux nous dit des évolutions et du futur de la Chine tout entière. Alors j'ai décidé de changer un peu de style et de commencer, et même assez largement, une grande première partie d'une manière un peu plus phénoménologique, si j'ose dire. C'est-à-dire de procéder un peu par des images ou par des compositions de lieux. Voilà, pour prendre un vocabulaire ignatien, on ne se refait pas. C'est-à-dire d'essayer de se représenter quel est l'univers, à la fois physique et mental, dans lequel des gens développent leurs croyances, leurs rituels, leur sociabilité. Donc plutôt, si vous voulez, que de faire une synthèse plus ou moins exacte des courants principaux, ce que j'essaierai tout de même de ressaisir dans une seconde partie, de commencer plutôt par des flashs et de sentir et de goûter plutôt que de savoir, si vous voulez. Il vaut mieux sentir et goûter intérieurement que de savoir beaucoup. Voilà. Alors j'ai commencé par une image qui est un seuil. Voilà. C'est une porte d'un jardin de Suzhou. Et avant d'entrer dans un endroit, on s'arrête sur le seuil. Et la perception que l'on a de l'endroit où l'on va entrer dépend de la configuration de ce seuil. Donc la grande force des jardins chinois, c'est qu'ils savent nous arrêter, nous surprendre. Une porte en forme de poire. Enfin, j'imagine que c'est une poire, n'est-ce pas? Et puis, après cette porte qui déjà découpe étrangement le paysage, un second plan avec une fenêtre à découpure qui lui-même, souvent, ça peut se deviner ici, donne lui-même, on pourrait deviner, une autre fenêtre derrière. Donc des plans superposés qui découpent étrangement l'espace et qui nous amènent à nous arrêter. Alors c'est simplement un rappel pour dire que les gens vivent dans des univers sur lesquels nous ne pouvons pas plaquer immédiatement nos cônes de perception. Et que même ces gens sont par exemple protestants ou catholiques, ils vivent dans un univers à la fois de mémoire et de lieu qui va découper autrement leur espace. Par ailleurs, peut-être que cela nous rappelle qu'effectivement, dans la tradition chinoise, quand on parle de religion, on parle d'abord de lieu, c'est-à-dire on habite des lieux, et ces lieux, comme je le dirai à diverses reprises, sont des territoires. Un corps et le territoire qui est traversé par les forces diverses qui nous habitent. Une communauté est un territoire dans lequel des esprits, pas forcément bien intentionnés, doivent également être maîtrisés, ou en tout cas, qu'ils soient bien intentionnés ou non, telle n'est pas la question, il faut établir une balance. Un corps, un espace est traversé par des eaux qu'il faut aussi dompter pour qu'ils servent au meilleur, etc. Donc, disons-nous dès le départ que quelqu'un qui entre dans un groupe religieux, par exemple dans une croyance, n'entre pas d'abord dans une doctrine. Il entre dans un corps humain, un territoire, une communauté, et même une communauté est vue en termes de corps, et donc d'espace. Voilà peut-être mon entrée en matière. J'espère qu'elle n'a pas l'air trop mystérieuse ou exotique, ça n'est pas mon but, mais c'est une façon de nous arrêter au seuil avant de poursuivre dans l'espace du jardin et d'interroger cet espace, disons, fenêtre échancrée après fenêtre échancrée. Voilà, alors un autre espace, c'est l'espace du repas, et ce repas est celui du Nouvel An chinois. C'est donc tout simplement, j'emprunte la plupart des photos, pas toutes, à deux photographes. Une chinoise, c'était la première photo, et une britannique qui accomplit avec moi en ce moment un projet d'ethnographie religieuse visuelle de Shanghai, et donc en essayant de trouver des photos qui résument un petit peu des espaces. Donc un repas, c'est celui du Nouvel An chinois. Rite maintenant qui a priori n'a rien de religieux, mais qui l'était fondamentalement. Le Nouvel An chinois, c'était un recommencement, et c'était surtout le moment où on se réconciliait. Toutes les dettes étaient réglées, et on pouvait repartir à neuf. Donc c'était de toute façon un rite transreligieux, si vous voulez. La table après le repas ne sera plus dans cet ordre merveilleux, mais c'est un repas, et un repas, c'est par excellence un lieu de rituel religieux. Ou, pour le dire autrement, un rituel religieux, c'est bien souvent un repas. Voilà. Donc une autre entrée, non pas dans un groupe défini, mais dans un mode de sociabilité rythmé dans le temps, comme c'est le cas de toute façon dans toutes les sociétés, et à certaines occasions, on prend son repas ensemble. Et si on allait plus loin, évidemment, on pourrait analyser ce qu'il y a sur la table, pourquoi le mélange peut-être des genres et des cultures, etc., etc. Le Coca-Cola ne fait pas partie de la tradition. Voilà, alors tout à fait un autre espace, mais qui complète, et qui donc est tout simplement celui d'un temple bouddhiste, mais un temple bouddhiste qui est enraciné dans une communauté. Donc la plupart de ces temples bouddhistes étaient d'abord des sanctuaires taoïstes qui ensuite ont été transformés en temples bouddhistes par l'État, par exemple à des époques diverses, souvent au XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle, et puis on laisse un sanctuaire pour le dieu du sol, pour le dieu de l'endroit. Vous remarquerez que c'est surtout peuplé vieilles dames ici, si ça n'est pas uniquement. Alors peut-être d'ailleurs que ça a été pris à un moment où elles se réunissaient, mais c'est aussi parce que les vieilles dames, c'est très important, on ne le dira jamais assez. Ça joue un rôle, pas seulement en Chine, ça joue un rôle dans la sociabilité qui est fondamentale. Ça représente la famille, c'est ceux qui vont représenter la famille dans les rites, parfois dans les rites quotidiens, lorsqu'on se réunit tous les jours au temple. Et puis dans les jours de fête où tout le monde se retrouve, c'est elles qui vont guider ceux qui connaissent mal. C'est vrai aussi dans les églises ou dans les paroisses, du reste. Et on a l'impression que la famille ne s'intéresse pas, par exemple, à la manifestation, aux faits religieux, mais en fait, la famille délègue, si on peut dire, la grand-mère pour la représenter. Voilà. Et c'est la grand-mère qui va guider à certaines occasions. En plus, la proportion de personnes âgées, elle croît en Chine. Donc ces temples sont des lieux où se crée la sociabilité religieuse. C'est partie de la société civile. C'est là où ces personnes échangent nouvelles, opinions, créent des occasions festives. Le temple sera ouvert très régulièrement par exemple pour le calendrier bouddhiste, enfin pour un mélange de calendrier bouddhiste et puis de calendrier chinois traditionnel. Et à cette occasion, ces dames vont se révéler, si on peut dire, des leaders de leur communauté. À petite échelle, si vous voulez, mais d'une façon qui crée du sens pour le quartier, par exemple, dans lequel ce temple est situé. J'ai dit que je procéderai par flash et je continue. Voilà, nous avons là un autre repas. Je ne le fais pas exprès, c'est là où ça se passe. Et dans ce repas, vous avez une vieille dame, c'est ça, on ne la voit pas bien ici, il y aura peut-être une autre photo d'elle ailleurs, qui a 95 ans et qui est la plus ancienne pasteur protestante de Shanghai. Donc son père était pasteur, et donc c'est une famille de longue tradition protestante à Shanghai. Ils doivent être dès le début du XXe siècle, et donc ils font partie de cette aristocratie protestante de Shanghai. Pas forcément en financier, mais ce sont les gens qui faisaient les contacts avec les étrangers, avec les gens de la concession, qui bénéficiaient de l'éducation occidentale, qui jouaient un rôle de leader. Et d'ailleurs, un certain nombre de ces gens-là aussi jouait un rôle leader dans les organisations nationales et révolutionnaires, etc. Donc, cette dame avait un père pasteur et elle-même a été ordonnée pasteur en 1980. Donc, elle n'était pas jeune après tout ce qui s'est passé. Voilà. Et maintenant, elle vit toute seule dans une petite chambre, dans un complexe de 4 églises protestantes officielles qui est géré par 3 pasteurs, 2 hommes et une femme. La femme qui est pasteur, c'est celle qui est en face de vous et elle fait en même temps un doctorat de philosophie à l'université de Fudan. C'est pour ça que je la connais. Voilà. Et qu'on a pu pénétrer dans son environnement tout à fait touchant. Et qui décrit, là en même temps, une sociabilité dans laquelle il y a un côté chinois, mais c'est tout à fait l'atmosphère des groupes protestants de Chine, et notamment des grandes villes, où le repas, l'action de grâce, le mélange effectivement de rituels religieux, de lecture de la Bible et de repas modeste en commun est une composante essentielle de la sociabilité. Si vous voulez, on recrée une sociabilité privée dans cette grande ville anonyme, par cette façon-là. Ça va pour le moment, ces flashs ne parlent ? Bon, très bien. Alors, je parlais corps, esprit, territoire, je n'en dirai pas plus, j'ai simplement marqué ces 3 mots pour marquer leur relation profonde, si vous voulez, et j'ai mis l'arche de l'entrée dans un village traditionnel. Ici, c'est dans la province du Jiangxi. Voilà. Alors, pourquoi cette arche ? Elle n'est pas un grand village, mais vous voyez, on n'en a plus beaucoup, des arches monumentales. Cette arche monumentale doit vous faire penser, et je vous amène tout de suite aux conclusions que je vais vous amener, à la fenêtre que nous avons vue en première diapositive. Elle découpe un espace, d'accord ? C'est un seuil également. Alors là, on est déjà dans l'espace. Là où vous voyez les bus, c'est l'espace extérieur, et après la porte, on est dans l'espace du village. Donc cet espace du village est à la fois un espace communautaire, un espace sacré, il sera situé avec des arbres sacrés, avec des orientations géomantiques et géographiques, etc., pour célébrer, par exemple, les rituels. Et ce village sera parfaitement organisé dans un espace-temps. Les montagnes seront derrière, enfin, il sera situé d'une façon qui le rend déjà un espace sacré. Et les rituels qui seront exercés dans ce territoire auront pour but de faire en sorte que tout se passe bien et que donc des forces, que j'appelle ici des esprits, pour faire court, on pourrait en discuter, si vous voulez, ce n'est pas toujours des esprits, esprit, force, c'est très semblable, si vous voulez, soient apprivoisés. C'est-à-dire, c'est comme l'eau. L'eau, ça peut amener la vie ou ça peut amener la mort. Ça dépend du système de canalisation. Bon, et bien les rites, c'est la même chose. Les rites, c'est le système de canalisation des forces qui organisent la vie physique, communautaire et surnaturelle. C'est la canalisation. Les rites, c'est la canalisation de la communauté. D'accord ? Et tout cela, et bien ça se passe dans un corps, parce que si vous avez des canaux, ça circule, comme les vaisseaux sanguins, etc. Ce n'est pas un espace amorphe. C'est un espace organisé, structuré, dirigé suivant des directions vitales, et c'est donc un corps. Voilà. Donc, cette spiritualité chinoise traditionnelle qui fait la base à la fois de la religion populaire et du taoïsme, eh bien, elle irrigue, à mon sens, d'une façon ou d'une autre, même des communautés religieuses modernes, que ce soit des communautés rurales ou de grandes villes, qui n'en ont pas forcément une conscience claire, mais qui se structurent en un corps. Bon, les images de repas que j'ai indiquées signale, si vous voulez, l'aspect rituel ou la régulation rituelle. Voilà, ce corps, évidemment, il traduit un corps plus gigantesque qui est le corps du pays lui-même. Hein, voilà. Un sinologue spécialiste du fait religieux, John Lagerwey, a publié un livre qui s'appelle « La Chine, État, Église », dans lequel sa thèse fondamentale, c'est que le corps même de la nation est l'objet de vénération. Hein, voilà. Et les jardins que nous avons vus reproduisent en petit les immenses massifs montagneux qui structurent également le paysage chinois. Et ces montagnes sacrées jouent un rôle fondamental dans la régulation de cet immense corps, de cet immense territoire qu'est la nation chinoise dans son ensemble. Voilà. Oups. Oui. Alors, là, on va passer très vite. Évidemment, Les régulations religieuses ne sont pas les mêmes en Chine. Le religieux et le politique se séparent difficilement. Et des rites comme ceux qui célèbrent le 60e anniversaire de la République de Chine, je pourrais vous passer la vidéo, mais on n'a pas le temps, structurent autrement l'espace de manière beaucoup plus artificielle, mais ça canalise aussi les énergies, les mécontentements, etc., d'une population dans son ensemble. Voilà. Et d'une certaine façon, il y a toujours un frottement entre la régulation étatique et les régulations religieuses. Il s'agit que ça marche et que le territoire, le corps, les esprits, d'une certaine façon, coïncident dans le système de régulation entre l'État et les communautés religieuses, entre l'État et l'Église, au sens le plus général du terme. Alors, un visage beaucoup plus surprenant de la Chine, mais on reste dans ce que j'ai dit. La Chine, ce n'est pas seulement des rames, vous savez, c'est des minorités nationales, environ 9% de la population, disons 120 millions d'habitants, parmi lesquels, par exemple, des musulmans, environ 23 millions d'habitants, dont 12 millions de Rui. Les Rui, ce sont les descendants des soldats et de leurs familles qui sont venus avec Genghis Khan, donc au 12e, 13e siècle, si vous voulez, et qui, après la fin de la dynastie mongole, ont été installés en ville garnison. Et ils sont parfaitement chinois, c'est le chinois qu'ils parlent, et ils sont dispersés sur l'ensemble du territoire chinois. Ici, une petite ville tout près de Chengdu, la capitale du Sichuan. Donc ces gens, ou du moins des délégués de la communauté hommes, forcément, sont en train de lire le Coran. Ils savent très peu l'arabe, n'est-ce pas? Mais c'est la langue sacrée, ils ont s'adressé pour lire quelques versets qui témoignent de leur identité, n'est-ce pas? Et religieuse et ethnique. Et comme vous voyez, tout ça structure une identité, mais à la fois leur langue habituelle n'est que le chinois, ou même le sichuanais, et ils sont parfaitement partie prenante de la communauté nationale dans son ensemble. Mais c'est un petit signe de l'extraordinaire variété des religions chinoises, parmi lesquelles, comme je l'ai dit, par exemple, 23 millions de musulmans. Voilà, reconstruction aussi. Ça, c'est une statue dans un temple en reconstruction, dans le Sichuan, un temple bouddhiste tibétain. Donc, c'est du bouddhisme tibétain, sponsorisé ici par l'État, dans une partie du Sichuan, qui est peuplée par une minorité tibétaine, mais qui n'est pas la province du Tibet. Et un peu partout en Chine, on voit des entreprises de reconstruction à l'ancienne, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est à la fois un temple ancien, reconstruit sur un modèle ancien, et c'est une création parfaitement contemporaine, financée par l'État, dirigée, etc., etc. Ce mélange de modernité et, disons, de planification moderne, si vous voulez, de tentative de recréer une tradition, est aussi typique, et pas seulement dans le domaine religieux, de la Chine moderne. Alors c'est très bien fait, hein, c'est fait pendant des mois, ils ont fait venir des artisans, je suis resté là-bas quelques jours, des artisans d'une ville spécialisée dans l'édification des temples qui pendant des mois restent sous une bâche de tente pour faire ces sculptures de temples à la main, hein, complètement à la main. Voilà. Ça c'est à Taïwan, je n'ai pas de meilleure photo, mais c'est pour illustrer l'importance de la tradition confucéenne là-dedans. C'est une cérémonie pour l'anniversaire de Confucius. Il y en a de plus en plus en Chine, il y en a eu d'importantes, de très importantes cette année. Donc on marque l'anniversaire de Confucius, mais qu'est-ce qu'on fait lors de l'anniversaire de Confucius? Eh bien c'est surtout au temple de ses parents qu'on rend hommage. Dans un temple de Confucius, ou à la fin du temple, il y a un temple aux parents de Confucius. C'est normal, puisqu'il prêche la piété filiale, n'est-ce pas? Donc la meilleure façon de rendre hommage à Confucius, c'est de rendre hommage à ses parents, n'est-ce pas? Donc, même tentative de recréer des traditions qui se sont largement perdues, qui sont reconstruites, c'est pas simplement un retour, c'est une reconstruction, on réinterprète. Le confucianisme est et n'est pas une religion, mais disons c'est un facteur vital qui sert parmi d'autres à recréer ce réseau rituel dont je parle, qui structure une communauté. La force du confucianisme, c'est qu'il s'adapte à tout. Le bouddhisme chinois est profondément confucéen. Le catholicisme chinois était profondément confucéen. Tous les premiers convertis, tous les amis de ma théorie, ne voyaient aucune contradiction entre leur éducation confucéenne profonde et leur nouvelle foi catholique. Et vivaient sur l'idée, qui était contestée bien sûr par d'autres des pré-confucéens, que Confucius, au fond, c'était le monothéisme originel, qu'il supposait en tout cas l'idée d'un Dieu unique et qu'il se refusait à nommer ce Dieu, en dire quoi que ce soit. Confucius dit sans arrêt qu'il ne parle pas de ceci, de cela, ce qui laissait l'espace à la révélation chrétienne. C'est une interprétation parmi d'autres et qui est violemment contestée, qui l'était dès le XVIIe siècle, par d'autres lettrés confucéens, et qui vous donne une idée de la plasticité d'une tradition qui, d'une certaine façon, sert à sinuiser, à contextualiser toutes les autres traditions venant d'ailleurs, bouddhisme et christianisme notamment, qui s'y insèrent. Et au XVIIe siècle, sur le modèle des traités confucéens chrétiens, vous avez eu des grands lettrés musulmans, chinois, qui ont tenté de confucianiser l'islam. Donc il y a traité qui essaie de montrer que les entretiens de Confucius et l'islam, ma foi, le Coran, ça marche parfaitement. Ça s'écrit encore, mais ça s'écrit dès le XVIIe siècle. Et ce sont des textes que les jeunes universités musulmans, qui sont très inquiets, évidemment, de la dégradation de l'islam en Chine, aiment beaucoup citer, commenter et développer. Voilà, ça c'est le côté un peu utopique des Chinois. C'est une peinture d'un peintre chinois de mes amis. Il a peint une ville idéalement où Matteo Ricci a vécu, et c'était la pagode bouddhiste à côté de laquelle, qui existe toujours, à côté de laquelle était située la maison de Matteo Ricci, qui elle n'existe plus. Et en même temps, comme vous voyez, il en a fait une sorte d'utopie interreligieuse, avec ce côté un peu nostalgique de société rurale, de paradis naturel, qui est si fort dans la psyché chinoise. Voilà un territoire parfaitement harmonisé. Voilà un territoire où tout est bien canalisé. Une sorte de rêve, si vous voulez, à la fois religieux et interreligieux. Voilà. Alors évidemment, tout ce que j'ai dit a l'air un petit peu idéaliste, donc il faut remettre tout ça dans le contexte de la Chine moderne, avec les problèmes environnementaux. Vous voyez, c'est les grands fleuves. Les grands fleuves en Chine, c'était la vie, c'était cette eau qu'il fallait canaliser, mais manifestement, l'eau peut aussi apporter la mort. Donc les religions chinoises aujourd'hui, elles ont affaire à des défis qui ne sont pas uniquement de l'ordre du passé. Il ne s'agit pas de réguler des petites communautés utopiques. Il faut aussi voir si ces religions sont à même, j'allais dire, de contribuer à soigner ce grand corps malade. C'est toujours le même problème, mais avec d'autres facteurs et des défis encore plus grands, n'est-ce pas ? Voilà. Alors, cette relation à la nature, la façon dont la Chine gère son environnement naturel, c'est manifestement un point qui interpelle au plus haut degré les traditions religieuses de la Chine, notamment ces traditions les plus locales, qui sont censées avoir toujours contribué à la régulation de l'environnement. Lorsqu'on parle du taoïsme, lorsqu'on parle des religions populaires, mais même lorsqu'on parle du bouddhisme, on a l'impression de religions qui aident à maintenir une certaine harmonie entre l'homme et la nature. Comment le faire dans une société où cette harmonie a été durablement rompue? Pardon, j'ai fait l'erreur qu'il ne fallait pas faire, et Gérald peut-être va m'aider à enlever. Il faut toujours appuyer du bon côté, m'a-t-il expliqué. Voilà, j'ai été moi-même dérégulé. Là, voilà. Alors, j'ai fini avec mes images. Il y en aura peut-être d'autres. Je ne parlerai qu'environ 40 minutes, donc je ne vais pas aller trop vite, de façon à laisser le plus large espace possible au débat. Donc, en fait, j'ai déjà dit l'essentiel. La religiosité traditionnelle chinoise, qui, une fois encore, ne nous y trompons pas, continue à irriguer même des appartenances religieuses modernes et beaucoup plus compartimentées. C'est une cosmologie qui lie des pratiques individuelles et collectives, qui lie ensemble trois enseignements qui ont trouvé une sorte de synthèse malaisée, ou d'équilibre malaisé, confucianisme, taoïsme et bouddhisme. Et c'est un univers religieux dans lequel les cultes d'État, c'est-à-dire la régulation par l'État des pratiques religieuses, et la diversité de ces territoires locaux dont j'ai parlé, ont toujours noué une relation à la fois intense et très malaisée. Ce que j'appelle ici conflit et coopération. Et puis les religions venues d'ailleurs, notamment d'abord par les routes de la soie, christianisme et islam, et jusqu'au IXe siècle, il y avait des communautés zoroastriennes, manichéennes et d'autres encore beaucoup plus moins connues, si vous voulez, ont toujours eu du mal finalement à s'insérer dans ce marais de ces cultes locaux régulés tant bien que se peut. par les structures étatiques. Voilà. Mais elles ont dû, dans cette situation difficile, dans ce grand corps, acculturer leurs ressources propres avec celles offertes par la langue et la culture chinoise. Voilà. Voilà, tout ça est peut-être un petit peu trop historique, mais disons, de toute façon, il y a une dynamique qui s'est faite. Et alors là, je voudrais dire quelque chose, justement, pour échapper au danger de l'exhaustisme. En fait, la périodicité ou les grandes étapes des religions chinoises sont étonnamment proches, beaucoup plus qu'on ne le pense, de ceux des religions occidentales. Si vous voulez, vous avez des cultes locaux qui sont régis par des cultes d'État qui sont de plus en plus affirmés avec la création du Premier Empire, donc environ moins de 100 avant notre ère. Et puis, il y a une grande crise qui se passe entre l'an 0 et l'an 200, qui va totalement déterminer la suite de l'évolution religieuse de la Chine. Même chose se passe en Occident à cette même époque, avec plusieurs religions différentes, mais ce qui va se passer en Occident, c'est qu'une religion, le christianisme, va finir par obtenir, malaisément, il a encore étalé sur 4 à 5 siècles, une situation quasiment monopolistique. Tandis que, au 1er siècle de notre ère, deux religions nouvelles se forment en Chine, d'une part le bouddhisme, qui entre pour la première fois en Chine un petit peu avant l'an 0, mais qui va se diffuser trop vite, très vite. Ça va être la plus grande entreprise de traduction de l'histoire de l'humanité, entre textes sanskrit et pali et chinois. Ça va s'étaler sur 5 à 6 siècles, là encore. Et puis le taoïsme, qui, de philosophie de la vie, se structure en une religion, qui en fait exprime les nouvelles aspirations d'une élite marchande qui n'a pas pu entrer dans les structures étatiques, les structures de concours. Voilà. Donc deux grandes religions se forment en Chine, bouddhisme, taoïsme, aucune n'en emportera, et le confucianisme, par réaction, va se structurer de plus en plus comme un culte défendu par l'État. Donc là où une religion dominante va entraîner toute la dynamique de l'évolution religieuse de l'Europe, nous aurons en Chine un équilibre permanent entre trois traditions religieuses qui sont inscrites dans l'histoire langue chinoise, mais qui vont se structurer institutionnellement, en gros, entre l'an 0 et l'an 200, en allant plus loin, l'an 350 de la Chine. Voilà. Donc, vous voyez, des choses qu'on peut reprocher, mais qui ne se passent, qui en même temps, des temporalités semblables et puis des résultats différents. Et puis, il y aura une crise en Chine entre le 14e siècle et le 16e siècle qui peut assez être rapproché de celle de la réforme. Il y aura une crise du scolasticisme. Donc le scolasticisme confucéo-bouddhiste chinois, il a sa plus belle période exactement à l'époque de saint Thomas d'Aquin. Et puis vers le XIVe siècle, il y a un philosophe, Huang Yongming, qui va insister sur le rôle de la conscience individuelle, qui va casser le scolasticisme chinois. Et puis au XVe, XVIe siècle, il va y avoir une sorte de querelle des rites, avant même l'entrée du christianisme, et ça va coïncider un peu plus tard avec l'entrée de Matteo Ricci, dans lequel les lettrés confucéens veulent rationaliser les rites, en finir avec ces superstitions, et faire en sorte que les rites servent au bon fonctionnement social, dans son ensemble. En finir avec les aspects superstitieux du rite, rationaliser tout ça. Ça se passe dans un contexte où il y a déjà une crise de l'Empire Ming, elle s'amorce très vite, et où donc ils veulent faire en sorte de réformer les institutions sociales par la réforme de la moralité et par l'éducation individuelle. Et le sinologue dont j'ai déjà parlé, John Lagerwey, dans le même livre, rapproche prudemment, mais il y a quelque chose, ce phénomène de celui du phénomène de la réforme. Voilà. Donc vous voyez, la Chine, c'est une autre civilisation, on peut insister sur les différences, on risque souvent de virer dans l'exotisme, et moi je suis de ceux qui croient que l'histoire humaine a des temporalités entre grandes civilisations qui sont plus proches qu'on ne le pense. Évidemment, j'aurais dû commencer avant, il y a l'axe axial en Grèce, en Inde, en monde israélien, si on veut, en gros, entre le 5e et le 3e siècle de notre ère, ou 6e et 2e siècle si on va au plus extrême, c'est exactement la période où ça se passe en Chine. Confucius, qui va poser des questions similaires, né une bonne centaine d'années avant Socrate, mais son disciple le plus important, Mencius, est un peu plus jeune que Socrate. Donc les choses se passent exactement au même moment. Donc si vous voulez, ces rythmes, 5e siècle avant Jésus-Christ, le début de notre ère et les périodes fondatrices de la modernité du 14e, 16e siècle, on peut les retrouver dans l'histoire chinoise. Voilà. Je sors un peu de mon objet, mais j'aime dire ça. Voilà, donc j'ai parlé de l'entrée des enseignements bouddhistes et donc de cette cohabitation malaisée des trois religions, comme on dit. Donc qu'est-ce qu'il arrive avec le christianisme et l'islam ? Comme je viens de le dire, ils sont longtemps confinés aux marges de la société chinoise. Première entrée du christianisme en Chine, c'est à peu près, on n'est pas sûr en fait de la première entrée, mais la première entrée attestée, c'est au 6e siècle. Premier document absolument attesté au 7e siècle, disparition, 9e siècle, prise dans la persécution contre le bouddhisme, faite assez, de manière assez brève par un empereur chinois, mais qui va emporter dans son sillon les autres petites religions issues des routes de la Soie. Retour de ministère, ça vient de Syrie, église syriaque, retour de missionnaires franciscains au XIIe, XIIIe siècle, c'est emporté par la chute de l'Empire mongol, il ne parle presque que mongol, il s'adresse à l'empereur, par la peste et par la fermeture définitive des routes de la soie. Et puis, à partir de l'entrée de Matteo Ricci en Chine, 1583, alors là, il n'y a plus d'interruption. Alors, il va se passer des choses importantes avec le christianisme. Évidemment, ça ébranle beaucoup de choses, mais ça ébranle un empire qui est déjà en ébranlement. Voilà, c'est un facteur aggravant. Aggravant à ne pas prendre dans un sens négatif, mais comme on parle, d'un facteur qui entraîne des troubles ou des questions de plus en plus importantes. En même temps, si vous voulez, la forme christianisme va être récupérée par les religions traditionnelles chinoises, et pas toujours de façon, pacifique, puisqu'il y a des éléments directement empruntés aux écrits des missionnaires, avec les Taiping, qui entraînent des ravages absolument terribles entre 1851 et 1864. Plusieurs millions de morts. Donc, les Taiping, c'est un mouvement millénariste, mi-chrétien, mi-religion populaire. La révolte des boxeurs, elle est profondément anti-chrétienne. Voilà. Et puis, dans les troubles des années 20 et 30, le christianisme doit faire son adjournement bientôt, beaucoup plus difficilement du côté catholique. Du côté protestant, il y a un rapprochement assez fort des penseurs protestants et des penseurs nationalistes. Et dans les années 30, on voit surgir aussi des nouvelles religions chinoises qui ont été réprimées violemment ensuite par le nouveau régime, mais qui sont toujours là à l'état latent. Qu'est-ce que c'est les nouvelles religions chinoises ? C'est ce fond de religiosité chinois qui est rationalisé, si on peut dire. On y applique des théories occidentales ou autres pour rendre compte de ces cultes taoïstes, pour rendre compte de l'influence du bouddhisme en terre et en psyché chinoise, et puis on y ajoute éventuellement des éléments empruntés au christianisme et à l'islam. Il y a l'une de ces nouvelles religions qui avait pris, par exemple, comme slogan « 5 religions en une ». Donc il s'agissait plus simplement de faire la synthèse entre bouddhisme, taoïsme et confucianisme, mais d'y ajouter encore christianisme et islam. Alors, ça demande un certain effort intellectuel, mais c'était le nec plus ultra, n'est-ce pas, de la religion. 5 religions en une. Vous avez 5 pour le prix d'un. Voilà, pour le prix d'une. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Eh bien, écoutez, d'abord, on ne sait pas combien il y a de gens de diverses religions. Seule exception peut-être l'islam, parce qu'il y a une concordance profonde entre les membres des minorités ethniques traditionnellement musulmanes et le nombre de musulmans. C'est-à-dire qu'il y a très peu de ces minorités dont les gens ne sont pas musulmans, au moins de façon officielle, et très peu de râles qui seraient musulmans. Okay ? Donc on sait qu'il y en a environ 23 millions. Parce que dans le recensement chinois, les minorités sont recensées, mais il n'y a pas de question sur l'appartenance religieuse. Donc ça ne peut se faire que par sondage. Les églises non plus ne sont pas vraiment à même de faire des statistiques fiables de leurs adhérents. En plus, pour certaines religions comme le bouddhisme, il n'y a pas d'adhérents au sens spirituel. Il y a des laïcs consacrés, il y a des gens qui se rendent dans les temples, etc. Donc, une certaine plasticité de l'adhérence. Voilà. Donc, il n'y a que des sondages, et ces sondages, en fait, ne peuvent être faits que dans les grandes villes. Et quels sont les instituts spécialisés dans ces sondages ? Ce sont les mêmes que ceux qui réalisent des sondages pour déterminer comment les publicités ont été vues à la télévision. Ce sont les meilleures sociétés, si vous voulez. Donc il faut pouvoir sonder des groupes de manière assez précise et assez cohérente pour être certain, disons, d'une certaine exactitude du résultat qu'on obtient. Donc c'est notre seule source, à peu près, pour avoir une estimation. Voilà. Puis il y a des enquêtes faites par des universités et des académies des sciences sociales. La plupart du temps, elles n'ont aucune fiabilité, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire, ou il y a des agendas déjà déterminés. Alors, il vaut mieux pas commencer en demandant aux gens à quelle religion vous appartenez. Ils ne vous répondront pas, ils vous diront n'importe quoi, vous ne pourrez interroger qu'une partie non représentative de la population. Des sondages pour demander est-ce que la religion, c'est très important dans votre vie, c'est plus intéressant. Vous voyez que, oui, c'est le cas. On ne sait pas bien ce que c'est la religion, mais c'est très important. Ok ? Voilà quelque chose qui dit quelque chose, sans doute des chiffres plus importants même qu'en Occident, sans doute. Voilà. L'appartenance, très difficile à savoir ce que c'est. C'est se rendre au temple, c'est brûler de l'encens, c'est être baptisé, c'est lire les Écritures, c'est avoir un petit hôtel portatif à la maison, difficile à dire. En tout cas, 14 à 18% disent avoir une appartenance. Ok ? Une autre enquête dit que 300 millions de personnes se déterminent comme religieux ou sans appartenant à une religion. Donc difficile à dire. Voilà ces chiffres un peu flottants. Les bouddhistes sont sans doute les plus importants, mais il faut bien comprendre que se déclarer bouddhiste en Chine a toujours été le plus simple. Pourquoi ? Parce que le bouddhisme traditionnellement en Chine est identifié à la moralité. C'est la religion morale par excellence. Donc quand un Chinois dit « je suis bouddhiste », il veut dire « je suis moral ». En fait, son corps de croyance et ses pratiques, la plupart du temps, enfin souvent, peuvent être taoïstes. Mais le taoïsme est associé à la manipulation de la religion. On va prier ceux qui vont vous donner de la chance, par exemple, y compris des voleurs célèbres qui ont une force. Donc on ne se dit pas facilement taoïste. Donc 1% simplement, mais ce serait uniquement dans les villes, se disent taoïstes. Mais en fait, cette religion protéiforme, ou cette vision du monde protéiforme qu'est le taoïsme, est partout présente, mais certainement davantage en milieu urbain ou campagnard. 4% seulement des sondés se revendiquent chrétiens, c'est peu, il y en a sans doute davantage. Bon, pour épargner, le suspense, quels sont les chiffres ? Les statistiques ou les estimations pour les protestants varient entre 30 et 100 millions. Le chiffre le plus vraisemblable, entre 50 et 60, mais je ne m'y engage absolument pas. Je n'en ai aucune idée. Catholiques, 20 millions au maximum, sans doute plutôt entre 15 et 18 millions. Ça peut être 20 millions. Très difficile à dire, là aussi. Voilà pour les chiffres. Mais une fois encore, c'est difficile, parce qu'il se passe le même phénomène que pour d'autres religions, et un phénomène qui se passe également en Occident. Qu'est-ce qu'on compte ? Des baptisés ? Des gens véritablement actifs dans des églises, ou des gens, et c'est très important en Chine, qui lisent la Bible ou se revendiquent de culture chrétienne sans appartenir à une église. La plasticité des appartenances en Chine est encore plus forte que chez nous, même si chez nous, elle est effectivement de plus en plus plastique. Voilà. Bon, tout ça, évidemment, se passe dans un cadre juridique déterminé, sur lequel je ne vais pas trop m'étendre, mais si vous voulez, il ne faut pas penser qu'à la politique et à la loi en Chine. C'est l'erreur de beaucoup d'analystes. Quand on parle de religion en Chine, on va me dire, alors l'État, et puis les clandestins, les patriotiques, je pense que j'aurai des questions là-dessus, je ne vais pas m'y engager. Mais il faut d'abord penser à la vitalité de communautés locales qui pensent très peu à la politique et qui créent leur propre vie communautaire à leur façon. C'est le plus important. Mais il y a des choses importantes. L'État n'est pas athée. L'État prône l'athéisme, mais respecte la liberté de croyance. En revanche, le prosélytisme en dehors des paroisses ou des lieux religieux est interdit. Et surtout, les groupements religieux et les affaires religieuses ne doivent subir aucune domination étrangère. Ça, c'est le plus important, une domination, influence étrangère ou domination c'est conçu de manière très large. Disons que les groupes religieux chinois ne peuvent qu'être endogènes. Toute influence étrangère est a priori prescrite, sauf si autorisée par l'État, par exemple si des séminaristes sont autorisés à aller faire leur formation à l'étranger, ou si des groupes religieux japonais sont autorisés à faire des donations ou à offrir les sutras à un temple bouddhiste, par exemple. Voilà. Donc c'est sur cette base que l'État encadre l'expression du fait religieux, et c'est une organisation qui est dite traditionnellement de courroie de transmission, c'est-à-dire où des associations reconnues par l'État veillent à la conformité des activités de religion avec la loi ou même avec les directives de l'État-parti. Donc les religions doivent être actives dans le mouvement de développement dans lequel la Chine est inclue. Ils doivent s'abstenir de parler de certains sujets. Ils doivent pouvoir mobiliser leurs citoyens. Mais cela étant dit, à l'intérieur des lieux de culte reconnus, ils ont liberté de pratique. Voilà. Je fais une description aussi juridique, si vous voulez, que possible. Évidemment, ça crée toujours des frottements, d'où le fait que, surtout pour les protestants et les catholiques, des groupes sont des groupes que j'appellerais plutôt à la maison, c'est-à-dire des groupes qui s'organisent par eux-mêmes en évitant d'être enregistrés. Mais il y a beaucoup de choses qu'on peut enregistrer, c'est-à-dire une église, enfin un bâtiment doit être enregistré, un groupe doit être enregistré auprès du bureau des... Donc, enregistrer l'église, c'est d'abord auprès du bureau des affaires urbaines, et puis il est enregistré comme église auprès du bureau des affaires religieuses. Et puis, les leaders, normalement, de cette organisation doivent être enrôlés auprès de l'association patriotique. Dans la pratique, et suivant les situations locales, c'est plus un continuum qu'une distinction claire. Par exemple, il y a des églises dites clandestines qui, en fait, au niveau des bâtiments, sont enregistrées tout à fait légalement auprès du bureau des affaires urbaines. En revanche, vous avez des groupes, ça a été l'immense problème qu'on rencontre en ce moment dans le Zhejiang, qui sont tout à fait patriotiques, c'est-à-dire dont les leaders sont enregistrés auprès de l'association patriotique, etc., mais qui a développé un patrimoine ou des constructions proprement dites, ou pour lesquelles l'autorisation de bâtir ne vient jamais, et donc dont les bâtiments sont, aux yeux du bureau des affaires urbaines, illégaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, revenons à la porte du jardin dans ma première diapositive. C'est en forme de poire, c'est pas en forme de carré. Voilà, et il y a des petites échancrures dans la fenêtre. Alors, je pense que je ne serai pas trop long. Je vous ai déjà dit l'essentiel sur tout cela, et je préfère laisser les questions, quelques photos peut-être encore. Mais vous voyez, les cérémonies de Pâques, ça ressemble beaucoup aux cérémonies de Pâques en Europe. Voilà. Donc, le feu pascal dans une église de la périphérie de Shanghai. Et vous voyez à quel point le côté rituel est si important. Hein. Les servants, qui sont ici des messieurs relativement âgés, dans le sens, pas des dames, là, des messieurs, voilà, seront forcément vécus de tout l'apparat nécessaire, etc. Le rituel en Chine est très important, il faut le comprendre, comme je le dis, c'est d'abord un facteur de canalisation. Et puis, autre chose importante, pour Confucius, le rituel, c'est ce qui éduque l'intérieur. C'est par la pratique attentive du rituel que l'intérieur de l'individu se spiritualise. Voilà, ça reste un facteur essentiel. Donc on ne plaisante pas avec le rituel, parce que c'est par le rituel qu'on accède à l'intériorité. C'est par l'extérieur qu'on va à l'intérieur. Voilà. Et ça se retrouve dans toutes les religions, et c'est très fort dans le catholicisme chinois, par exemple. Et ça serait vrai du bouddhisme. Alors le modèle protestant est différent, effectivement, c'est un modèle plus occidental, notamment américain, qui a fini par prédominer, et donc le rôle, disons, de l'exubérance, de la spontanéité. Les baptêmes sont par exemple effectués souvent dans les églises à la maison, dans des baignoires, ce qui choque énormément les catholiques qui entendent parler de ça, etc. Donc on a un type différent, mais même chez les protestants, on peut trouver des aspects rituels parfois différents. Quand on parle de protestantisme, et notamment de protestantisme clandestin, ne pensons pas que c'est forcément de l'évangélisme au sens traditionnel. Oui, il y a des groupes évangéliques et américains, normalement. Mais il y a de toutes tendances, et la plupart des gens qui se convertissent au protestantisme en Chine sont d'abord des gens qui ne peuvent rencontrer le christianisme que par cela. Donc pour eux, le protestantisme, c'est le christianisme, c'est tout. Hein. C'est la rencontre avec la Bible, c'est la rencontre avec un voisins, etc., ils n'ont pas développé des grandes théories évangéliques. J'en rencontre, sans exagérer, toutes les semaines, et c'est la suite de la cérémonie, là, dans la même église, toutes les semaines, de ces jeunes protestants qui, la plupart du temps, le sont depuis quelques mois. Ce sont des gens à la fois extrêmement ouvert et très interrogatif, la question qu'il me pose à peu près en permanence, c'est comment lire la Bible, point final. C'est la grande question. Voilà. Et le fait que je sois prêtre jésuite et pas pasteur protestant l'aurait profondément indifférent. L'essentiel, c'est que j'ai peut-être eu une formation pour savoir comment lire la Bible. Et ça, ça les intéresse. Voilà. Donc c'est tout. Il s'agit dans ces cas-là simplement de répondre à la question et de partager comment la Bible peut éventuellement être lue. Voilà. Et voilà. Alors, il y avait que des hommes. Mais c'est toujours la même église, c'est toujours la même Pâque. Nos Chinois rituels sont plus ouverts que vous ne pourriez le penser. C'est une religieuse, cette nuit de Pâques, qui a prononcé l'homélie et qui a insisté sur ce qu'il faut dire durant la nuit de Pâques, c'est-à-dire que l'annonce de la résurrection a été confiée aux femmes. Voilà. Donc j'espère vous montrer que nos Chinois sont ritualistes, mais que ritualiste ne veut pas forcément dire conservateur, par exemple. Voilà. Voilà, protestantisme, donc j'en ai parlé, j'ai parlé de ses estimations, je ne reviens pas là-dedans parce que je suis déjà en train de dépasser ce que je m'étais dit. Je vais peut-être finir là-dessus. Construction d'un très grand temple dans au sud-ouest de Shanghai. Voilà ce qui se fait en permanence. Donc on est dans la construction, j'allais dire en permanence. On est dans la construction, construction officielle, parce que l'État veut absolument pourvoir les fidèles de lieux officiels pour contrer également la profilération des lieux non officiels. Cette construction n'est pas seulement physique, elle est construction communautaire, elle est construction financière. On pourrait parler beaucoup, disons, des masses financières qui sont investies dans la reconstruction religieuse de la Chine. Elle est reconstruction de la société civile. Et tout ça ne se fait pas par des conflits ouverts, mais plutôt au contraire, par une sorte de conflit-coopération, une fois encore, entre les groupes religieux et l'État, ou même, le mot est meilleur, de compétition. Il s'agit de savoir qui va le faire le mieux. Qui va le faire le mieux. Ça passe par le conflit, on le voit en ce moment dans le Tiangong, mais c'est une sorte de compétition qui va réussir finalement à canaliser ce potentiel qu'offre une telle demande rituelle et spirituelle, pour faire court, dans la Chine contemporaine. Voilà. Donc, et là je réponds très brièvement à la seconde question que je posais en introduction, ce qui se dessine dans le phénomène religieux en Chine, c'est la nouvelle figure de la société civile chinoise, qui ne procède pas par compétition avec l'État, mais ce qu'on a appelé par autonomisation, par participation. Ça a l'air très compliqué, mais ça veut dire au fond que plus vous jouez avec l'État, plus vous pouvez finir par devenir autonome. Hein, voilà, par exemple, les chambres de commerce, eh bien, là où les hommes d'affaires sont importants et prospères, elles commencent par remplir les missions qu'on leur confie. Et plus elles remplissent, plus elles amassent de l'argent, et plus elles sont capables de prendre des initiatives d'elles-mêmes. Alors c'est un jeu de balance. On peut aller trop loin, ça arrive tout le temps. Mais quand ça arrive trop loin, il ne faut pas s'affoler tout de suite en disant « c'est terrible, terrible retour en arrière ». C'est un retour en arrière, mais c'est comme l'eau. Il y a des flux et il y a des reflux. Hein, voilà. Ça marche comme ça, et donc l'espace religieux chinois manifeste le caractère tout à fait spécifique par lequel la société civile chinoise se conflit, en complexité, en conflit et en compétition, les trois termes sont juste ensemble, avec l'État chinois. Ça, c'est la dernière, on va arrêter là-dessus. Voici quelque chose organisé par l'État. C'est une rencontre interreligieuse, voulue par l'État. Donc c'est que des groupes patriotiques qui viennent plus ou moins heureux d'être là, mais enfin ils sont là, ils ont répété des chants, etc. C'est dans un gymnase, et un quartier de Shanghai organise une rencontre des différentes religions pour montrer leur participation au développement du quartier. Et donc vous avez des musulmans, vous avez des catholiques, vous avez des protestants, on pourrait voir des moines ailleurs, etc. Et qu'est-ce qu'on a fini par leur faire faire pour clôturer la journée ? Du tir à la corde. C'est-à-dire que les moines ont lutté contre les musulmans, etc. Et puis finalement, un groupe a gagné. Et pour ne pas faire de jaloux, je ne vous dirai pas lequel. Un grand merci.